France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La tempête Benjamin perturbe des millions de Français, des trains annulés, des routes coupées, 145 000 foyers sont privés de courant. Le détail dans un instant, reportage aussi en Charente-Maritime et dans une demi-heure, les prévisions météo. Le vent va continuer de souffler fort, à suivre encore. Elles nous pourrissent la vie, les arnaques sur Internet. Elles viennent souvent d'Asie du Sud-Est et de Birmanie, on va vous expliquer. Moscou, furieux ce matin des sanctions américaines prises contre ses pétroliers la nuit dernière. Et puis en France, la suspension de la réforme des retraites. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
Le RN va-t-il la voter ? Marine Le Pen entretient le doute.
Oui, entre l'abstention et le vote contre le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, un moyen de mettre la pression avec ce flou sur les autres groupes. Le RN veut obtenir la suspension de la réforme des retraites, mais pas à n'importe quel prix.
A tout de suite pour vos précisions. Nous nous souviendrons également du drame de Puy-Seguin. C'était il y a 10 ans en Gironde, sans oublier le tracé des Tours de France 2026 dévoilé il y a quelques minutes. Bonjour Fanny Le Chevestrier.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place, il y a des nouveautés.
Oui, avec le Mont Ventoux pour la première fois pour le Tour de France Femmes et une double ascension de l'Alpe d'Huez en 2 jours pour le Tour de France Hommes qui s'annonce là encore déjà mythique.
Et on saura tout grâce à vous à partir de 13h30. L'histoire de ces mères en fuite à l'étranger avec leurs enfants pour les protéger d'un père incestueux. Ce ne sont pas des cas isolés. La journaliste Romane Brizard a enquêté. Son livre Inceste d'État vient de paraître. Elle est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France. Les sangliers prolifèrent. Pourtant, personne ne les mange. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest va nous expliquer. Et puis, juste avant 14h, c'est une chanson. Notre semaine spéciale Barbara, Lambert Wilson demande Göttingen à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La saison des tempêtes débute fort. C'est Benjamin qui balaye la France depuis quelques heures. 161 km/h relevé à Fécamp ce matin en Normandie, 142 sur l'île de Ré, 145 km/h dans les Landes. Conséquence, des routes coupées, des coupures d'électricité et des trains supprimés. On voit ça dans un instant. Avant cela, voyons les dégâts sur le terrain avec Marc Bertrand, notre journaliste qui est sur la zone artisanale de Salles-sur-Mer. C'est au sud de La Rochelle.
Anthony, sur Vetiama, sur le dos, ne dit pas grand-chose. Devant l'énorme plaque de tôle qui pend comme un lambeau à côté du panneau accueil, la tempête a arraché toute la façade de son garage. C'était tard cette nuit.
J'étais en train de travailler. D'un seul coup, les murs se sont mis à trembler. Il y a eu une grosse bourrasque devant et ça a tout emporté. C'était vraiment impressionnant.
Trois copains qui travaillent dans le bâtiment sont venus l'aider avec leur camion, ahuris de découvrir la scène.
Moi, je fais du bardage et de la couverture métallique. Jamais vu ça.
À l'intérieur, le père, Marc, 65 ans, qui travaille avec son fils, était là aussi cette nuit. Il dit que ça a duré 20-30 secondes maximum.
Un gros bruit de tôle, quoi, quand la tôle s'est arrachée à l'extérieur, je pense. Et puis on a vu la tôle atterrir devant la porte de garage, quoi. Les meubles avaient même bougé dans le bureau. J'ai pas eu le temps d'avoir peur, non. J'ai pas...
À l'extérieur, le propriétaire du bâtiment, Rodolphe, a ramené un chariot élévateur pour sécuriser la plaque de tôle coupante comme un rasoir.
Il y a une tornade en fait, pour que ça arrache comme ça, parce que bon, des tempêtes, il y en a eu, le bâtiment a 15 ans, ça n'a jamais bougé en fait. Puis un peu plus loin, les arbres sur la route, des arbres qui ont été arrachés, quoi. Donc c'est vraiment localisé, quoi.
Impossible de réparer aujourd'hui, la tempête est trop forte. Anthony regarde autour de lui, dépité. Aucune des entreprises autour n'a été touchée.
Un reportage Marc Bertrand en Charente-Maritime. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous avez suivi ce matin l'évolution de cette tempête. Première conséquence et principale d'ailleurs, 145 000 foyers sont privés de courant.
Les régions la plus touchée, la Nouvelle-Aquitaine avec 40 000 foyers privés d'électricité, 35 000 en Auvergne-Rhône-Alpes, 15 000 en Bourgogne-Franche-Comté et 15 000 en Occitanie. Le trafic ferroviaire est aussi fortement perturbé, des trains supprimés ou qui circulent au ralenti, notamment les TER en Normandie, en Bretagne ou dans les Pays de la Loire. La SNCF conseille aux voyageurs de vérifier que leur train est maintenu avant de se rendre en gare. Le phénomène météo, lui, se décale. Sur la côte atlantique, le plus gros est passé, nous dit Météo France. Mmh. En revanche, ça commence à souffler sur le pourtour méditerranéen et la Corse doit encore s'attendre à des rafales de vent violents jusqu'à la fin de la nuit prochaine. Et on relève surtout à cette heure des dégâts matériels, mais aussi 3 blessés légers ce matin. Une femme de 26 ans touchée par la chute d'une branche sur le bâtiment où elle se trouvait en Charente, selon ici La Rochelle. Et 2 blessés en Gironde, une femme pompier qui a fait une chute lors d'une intervention à Pessac. Et un chauffeur de bus, un arbre est tombé sur son car alors qu'il conduisait, selon les informations d'ici Gironde.
Merci Clémentine Sabrier. Au total, 18 départements sont en vigilance orange. 15 pour le vent du nord jusqu'à la Corse et aux Pyrénées-Orientales, la carte des vigilances. Et les prévisions complètes pour les prochaines heures, ce sera dans une vingtaine de minutes avec Élodie Calac. C'est un phénomène qui est en pleine explosion. La cybercriminalité, de plus en plus d'entre nous sont concernés. 350 000 atteintes numériques l'an dernier, c'est plus 74% en 5 ans. Et ces arnaques sont le plus souvent menées de l'étranger. On a beaucoup parlé de l'Afrique de l'Ouest et de ses brouteurs. L'autre région du monde où prospère cette industrie, c'est l'Asie du Sud-Est, la Birmanie notamment. Ces centres de cyberfraude se connectent souvent à Internet via le réseau Starlink d'Elon Musk. Bonjour Nicolas Théillard.
Bonjour.
Et sous la pression, Musk vient de désactiver 2500 de ses récepteurs dans le pays.
Et si la société d'Elon Musk frappe aussi fort, c'est qu'elle doit montrer sa bonne volonté. SpaceX est l'objet d'une enquête aux États-Unis soupçonnée de favoriser le développement d'activités criminelles par le biais de ces récepteurs Internet. Ils sont utilisés pour contourner les blocages de réseaux Internet et permettent à des mafias de faire tourner à plein régime de véritables usines à escroquerie en ligne. Comme il y a des fermes à trolls pour la désinformation, des centres de cyberfraude pullulent en Asie du Sud-Est et particulièrement à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. On y produit de l'arnaque à une échelle industrielle, de l'escroquerie sentimentale aux fraudes aux crypto-monnaies, en passant par les vols de données ou les tentatives de hameçonnage qui envahissent vos boîtes mail et vos réseaux sociaux. Une industrie de l'escroquerie qui génère des revenus faramineux, estimés en dizaines de milliards de dollars.
Et cette industrie, Nicolas, fait des victimes.
Des gens comme vous et moi, considérés comme des pigeons à piéger dans le monde entier, mais à l'autre bout de la chaîne, il y a aussi ces milliers d'ouvriers de l'arnaque, victimes de ce qui s'apparente à de l'esclavage moderne, surveillés de près, régulièrement menacés. Ces travailleurs passent d'interminables journées devant écrans et claviers, soumis à la pression de faire rentrer du cash sous peine de sanctions ou de punitions. Après ces opérations de démantèlement, des centaines de ces ouvriers du CLIC ont ainsi été aperçus ce matin, fuyant dans le chaos l'un des principaux complexes de ces escroqueries en Birmanie.
Décryptage signé Nicolas Théillard. Les États-Unis de Donald Trump qui ont décidé pour la première fois hier soir de sanctionner 2 groupes pétroliers russes, Rosneft et Lukoil, c'est-à-dire gel de tous les actifs et interdiction à toutes les entreprises américaines de faire des affaires avec eux. L'Union européenne ce matin prend d'autres sanctions qu'on va détailler dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on voit quelle est la réaction à ces sanctions inédites à Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous y êtes notre correspondant et clairement, ce sont les sanctions américaines, pas les européennes qui mettent les Russes en colère aujourd'hui.
Oui, clairement, et il y a un vrai changement de ton hein, à Moscou, où on ne balaye pas d'un revers de la main ces nouvelles sanctions comme d'habitude. La pilule semble difficile à digérer, d'autant plus qu'il y a quelques jours, on pavoisait en évoquant la future rencontre de Vladimir Poutine avec Donald Trump en Hongrie sur le sol européen. L'ascenseur diplomatique là, vient de redescendre à la cave, en quelque sorte. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères condamne. Nous considérons cette démarche comme contre-productive, dit Maria Zakharova. L'ancien président Dmitri Medvedev, dans son style toujours sans nuance, fustige le bavard faiseur de paix, c'est comme cela qu'il désigne Donald Trump, désormais, selon lui, pleinement engagé sur la voie de la guerre avec la Russie, rien que ça, et le Kremlin n'a toujours pas réagi à l'heure qu'il est, c'est un signe, probablement. Jusque-là, la présidence russe a toujours pris soin de ménager Donald Trump, même quand celui-ci semblait se fâcher contre Vladimir Poutine, mettant cela sur le compte de l'émotion, mais jusque-là, jamais encore, le président américain n'avait joint les actes à la parole.
Merci Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, vous nous parliez des pétroliers russes, Sylvain, il y a un instant. Cette condamnation ce matin, mais pour un pétrolier français, c'est Total Energy. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Pour pratique commerciale trompeuse, Total Energy coupable d'avoir verdi son image au moment de son changement de nom, c'est ça?
Oui, 4 ONG, Jérôme, les Amis de la Terre, Client Earth, Greenpeace et Notre Affaire à Tous avaient assigné l'entreprise au tribunal judiciaire de Paris il y a 3 ans. En cause cette campagne de communication lancée en 2021. Total devient alors Total Énergie, se présente en acteur majeur de la transition énergétique, se dit en ligne, je cite, avec les objectifs de développement durable de l'ONU, autant de messages qui trompent les consommateurs, dit ce matin la décision du tribunal, alors que Total continue à produire du pétrole, du gaz, très émetteur de gaz à effet de serre. L'entreprise doit retirer ses messages de ses sites d'ici un mois sous peine d'amende de 10 000 euros par jour de retard. Décision historique, une première mondiale, salue les ONG et Justine Ripoll de l'association Notre Affaire à Tous.
Pour nous, c'est une victoire qui est immense, à la fois pour le précédent que ça crée en France, pour l'effet aussi boule de neige que ça va avoir au niveau mondial. Ces allégations, le fait de dire que les compagnies pétro-gazières sont des acteurs de la transition, qu'ils seront bien neutres en carbone, c'est toutes les entreprises, en tout cas une majorité des entreprises pétro-gazières, et donc ça va pouvoir aussi avoir cet effet de jurisprudence partout dans le monde.
Total Energy n'a pas répondu pour le moment à nos sollicitations. L'avocate du groupe nous dit prendre connaissance de cette décision.
Merci Rémi Brancato. Deux informations, nous étions en Russie il y a une minute, deux informations en provenance de Russie. D'abord la libération de ce Français, de ce cycliste français âgé de 44 ans qui y avait été arrêté il y a quelques semaines. Il traversait le pays à vélo. Ce Français a été libéré, on l'a appris ce matin. Et puis autre information, à l'instant, une explosion dans une usine en Russie, 10 morts et 12 disparus. On vous donnera plus de détails dans un instant. La Russie, qui est donc l'objet de nouvelles sanctions de la part de l'Union européenne, elles ont été décidées ce matin par les 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont à Bruxelles. Bonjour Julien Lény.
Bonjour.
C'est le 19e paquet de sanctions.
Oui, et une fois de plus, il s'agit de s'en prendre aux sources d'énergie du Kremlin, avec en particulier l'arrêt total des importations de GNL russe dans l'UE d'ici fin 2026, soit un an plus tôt que prévu. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est une source de financement importante pour la Russie, qui en avait vendu à l'Europe pour près de 22 milliards de mètres cubes l'an passé. Autre sanction adoptée ce matin dans ce paquet, elle vise la fameuse flotte fantôme de pétroliers russes. Souvenez-vous, il y a un mois, l'un de ces pétroliers avait été arraisonné par la marine française au large de Saint-Nazaire. Ce sont ces pétroliers clandestins qui permettent à Moscou de continuer à vendre son pétrole malgré les sanctions occidentales et de financer son effort de guerre. Et bien grâce à ces nouvelles sanctions européennes, ce sont 117 nouveaux pétroliers fantômes qui sont visés, soit 558 en tout. De quoi réjouir le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son arrivée à Bruxelles ce matin.
Ensemble, nous devons mettre la pression sur Poutine pour qu'il arrête cette guerre. La pression, ce sont bien sûr les paquets de sanctions et aussi un soutien financier de long terme à l'Ukraine dont nous allons parler aujourd'hui. C'est essentiel. Merci pour votre unité, merci pour ce soutien.
Alors quand Zelensky parle de soutien financier, il pense notamment aux quelques 185 milliards d'euros d'avoirs russes gelés depuis le début de la guerre. Cet après-midi en Conseil européen, les chefs d'État vont discuter d'une idée pour verser une partie de ce butin à l'Ukraine, lui accorder ce qu'on appelle ici un prêt de réparation. Kiev rembourserait la somme à l'UE uniquement si la Russie finit par lui payer des réparations de guerre à l'avenir.
Julien, Emmanuel Macron participe évidemment à ce sommet, mais il a aussi passé une partie de sa matinée à participer à distance à un conseil des ministres qui, lui, se tenait à Paris. Deuxième conseil des ministres en deux jours. Et l'objectif ce matin, c'était d'entériner la lettre rectificative pour suspendre la réforme des retraites. Si je comprends bien, le chef de l'État a un pied à Paris, un pied à Bruxelles, c'est ça ?
Oui, scène très inhabituelle ce matin dans la capitale belge, entre un petit déjeuner avec ses alliés au Parlement et son arrivée au Conseil européen. Emmanuel Macron s'est isolé pendant une demi-heure dans une salle de la représentation permanente de la France ici. Tout ça pour y présider en visio ce nouveau Conseil des ministres convoqué en urgence, avec sur l'écran du président donc Sébastien Lecornu et les principaux ministres réunis à l'Élysée en son absence. Ordre du jour très politique, vous l'avez dit, c'est cette fameuse lettre rectificative qui permet en quelque sorte de graver dans le marbre du budget à venir la suspension de la réforme des retraites promise aux socialistes en échange de leur non-censure. L'histoire retiendra donc que c'est depuis Bruxelles qu'il aura officiellement renoncé ce matin à l'unique réforme structurelle de son second quinquennat. Oui, c'est douloureux pour lui d'accepter ça, concède ici l'entourage d'Emmanuel Macron.
Julien Nény en direct de Bruxelles avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Alors cette suspension figurera dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'an prochain, mais pour qu'elle soit effective, il faudra une majorité pour voter ce texte à l'Assemblée nationale. Intéressant à cet égard donc ce matin de connaître la position du Rassemblement National. Lise-Rose Veillon, on vous retrouve puisque le parti présentait son contre-budget. Question, votera-t-il cette suspension de la réforme des retraites ?
Eh bien, Marine Le Pen entretient le doute entre abstention et vote contre le PLFSS. Ces derniers jours, plusieurs lieutenants et proches conseillers l'affirmaient. Si le texte est modifié en profondeur dans l'hémicycle, pas de mise à contribution des retraités, pas de gel des prestations sociales, alors le RN pourrait s'abstenir, donc permettre au PLFSS de passer et à la suspension de la réforme des retraites de s'appliquer. Mais ce matin, Marine Le Pen n'est pas si catégorique.
Évidemment, nous encourageons cette suspension de la réforme des retraites. Mais est-ce que nous allons voter pour une aggravation de 20 milliards d'impôts supplémentaires pour protéger sa suspension? Il n'en est pas question.
Un moyen d'entretenir le flou et donc la pression sur les autres groupes pour obtenir des bougies dans l'hémicycle, notamment sur la mise à contribution des retraités, inscrite noir sur blanc dans la lettre rectificative du gouvernement.
La question, c'est comment le PS va voter ça? Comment les LR vont voter ça? C'est ça la vraie question.
Marine Le Pen, qui ne veut pas pour autant être confondue avec le Parti Socialiste, elle continue donc de dénoncer un cirque.
Je crois qu'il faut dégonfler la baudruche. C'est qu'en réalité, cette suspension de la réforme des retraites n'est qu'une excuse. Le Parti Socialiste avait besoin d'une excuse pour s'opposer au vote de la censure.
Le Rassemblement National le répète, il faut surtout abroger la réforme des retraites et appliquer sa propre réforme. Elle est d'ailleurs incluse dans le contre-budget et financée en réduisant le train de vie de l'État, la contribution à l'Union européenne ou encore le coût de l'immigration.
Lise Rosveille en direct avec les moyens techniques de Romain Luquien. Cette suspension de la réforme des retraites va coûter 100 millions d'euros l'an prochain, 1,4 milliard d'euros en 2027 selon les calculs du gouvernement qui, pour la financer, compte mettre à contribution à la fois les retraités actuels, mais aussi les complémentaires santé avec une taxe supplémentaire. Coup de gueule d'Éric Chenu ce matin, il est le président de la Mutualité française.
Nous pensons que ce n'est pas par une taxe qu'on doit financer les retraites ou la santé en taxant les contrats de complémentaire santé. Aujourd'hui, la taxe, elle est déjà de 14,08%, c'est-à-dire qu'elle va monter à plus de 16%. On est au niveau le plus élevé au niveau européen. Donc, on est à des niveaux de taxation démesurés. Cette TVA sur la santé est injuste, injustifiée, et c'est pas le bon moyen pour répartir de manière solidaire l'effort pour le financement de l'assurance maladie, et certainement pas pertinent pour financer les retraites. Par ailleurs, cette taxe, eh bien, ce sont les assurés sociaux, les adhérents qui vont la payer. Tous ceux qui ont un contrat de complémentaire santé la paieront.
Le président de la Mutualité française au téléphone de Sophia Berada.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
L'accident de la route a marqué les esprits. C'était il y a 10 ans, le 23 octobre 2015, à Puy-Seguin, près de Libourne. La collision entre un bus et un camion semi-remorque tue 43 personnes. C'est l'un des accidents les plus meurtriers que la France ait connu. Sur les 8 survivants, 7 sont aujourd'hui toujours en vie, dont Raymond Silvestrini. Cet habitant de Petit-Palais a perdu ce jour-là 4 de ses proches, dont sa femme Lucienne, et à 78 ans, il tente d'avancer comme il peut. Clément Carpentier, vous l'avez rencontré.
Oui, et d'ailleurs, comme chaque année à l'approche de ce 23 octobre, les troubles du sommeil sont de retour. Cette année, il a même contracté une maladie liée au stress, et puis il revit régulièrement sa défenestration.
J'ai inhalé à peine un peu de ce gaz et j'ai dit, il faut que je casse une vitre et puis il faut que je saute. Et là, c'est une force surhumaine. Jamais j'aurais pensé pouvoir casser une vitre et passer à travers. Donc là, je dis, c'est un miracle, c'est un miracle.
Un miracle qui n'efface évidemment pas la perte de ses proches.
Je me suis penché pour voir ce qui se passait. J'ai appelé ma compagne. Lulu, Lulu. Personne répondait. Il y avait des flamèches partout. Tout le monde était déjà mort.
Et ces 10 ans ont surtout permis à Raymond Silvestrini d'apaiser son cœur.
Moi, j'en veux à personne. J'en veux à personne parce que bon, le chauffeur qui a causé l'accident, il a perdu la vie avec son gamin. Il y avait des malfaçons sur son camion. Mais bon, je veux plus en entendre parler. C'est fini.
Aujourd'hui, il vit toujours dans sa maison à Petit-Palais. Et comme tout le ramène à cet accident, il partage désormais sa vie avec une autre survivante, Monique.
C'est pas le même lien, si vous voulez, que amoureux. Ce qui nous a réunis, surtout, c'était l'accident, quoi. L'accident.
Un moyen sûrement très fort pour s'épauler face à un tel drame.
Un reportage ici Gironde, une cérémonie d'hommage s'est déroulée ce matin à Puy-Seguin. Quant au volet judiciaire, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu général l'été dernier, mais les familles des victimes ont décidé de se pourvoir en cassation. 272 400 victimes de violences conjugales l'an dernier dans notre pays, essentiellement des femmes, niveau quasi stable par rapport à 2023, plus 0,4%, ce sont les données transmises ce matin par le ministère ministère de l'Intérieur. À Besançon, dans le Doubs, le rectorat a décidé de sensibiliser davantage les jeunes au danger des réseaux sociaux. Décision qui fait suite à la mise en examen la semaine dernière d'un collégien de 13 ans pour avoir filmé le viol d'un enfant de 9 ans par un autre enfant âgé, lui, de seulement 8 ans. Cela s'est passé en pleine rue. Il a ensuite diffusé cette vidéo, Nina Sobetsky.
Les trois garçons sont originaires du même quartier de Besançon. Selon les deux écoliers de 8 et 9 ans, c'est le plus grand, le collégien de 13 ans, qui les a poussés à commettre et subir cet acte et leur a même mis la pression. Mais en garde à vue, l'adolescent nie le viol et l'incitation au viol. Mais il reconnaît avoir filmé la scène. Il a ensuite envoyé la vidéo à des amis de son collège avant qu'elle ne circule auprès d'autres élèves. Une information judiciaire est ouverte pour éclaircir les faits et pour comprendre comment des enfants si jeunes en sont arrivés là. Est-ce qu'ils ont subi des sévices ou est-ce qu'ils ont été confrontés à des contenus pornographiques? En fin de semaine dernière, une assistante sociale est intervenue auprès des collégiens. Elle les a sensibilisés au danger des réseaux sociaux et des contenus inappropriés. Une action mise en place par le rectorat suite à cette affaire.
Précision ici, Besançon, devant la cour d'assises de Paris. Ce sont les experts psychiatres qui sont entendus aujourd'hui au procès de Dabia Benkired, accusée du viol et du meurtre de Lola, 12 ans. C'était il y a 3 ans à Paris. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès pour Inter. L'état de santé mentale de l'accusé a été ce matin au cœur des débats.
Oui Jérôme, d'ailleurs, est-ce vraiment un débat quand tous les avis convergent, ceux des médecins en prison et des auteurs des différentes expertises formelles? L'accusée ne présente aucune maladie psychiatrique, elle avait donc son libre arbitre quand elle a violé et tué Lola. Il ne faut pas confondre la folie d'un acte avec la folie de son auteur, précise une experte psychiatre à la barre qui raconte aussi sa difficulté à finaliser son rapport. Je me suis retrouvée avec une paralysie de la pensée en 15 ans de psychiatrie carcérale, c'est la première fois que ça m'arrive, comme une sorte d'emprise, un malaise qui prend à la gorge. Nous n'avons pas encore réussi à lever certaines incohérences. Comment aller plus loin avec Dabia Benkired, s'enquiert le président du tribunal. Aucune idée, elle est la seule à avoir la clé et se satisfait de voir les autres tenter de donner du sens à l'innommable. Car Dabia Benkired analyse la psychiatre et manipulatrice, narcissique, se nourrit de l'autre pour asseoir sa domination. Une tendance à la psychopathie, conclut-elle. Quel est le degré de dangerosité pour la société? S'inquiète enfin le procureur. Nous sommes sur le degré maximum de risque de violence et de réitération, répond sobrement la médecin.
Delphine Evenou, l'université Paris 8, elle est pointée du doigt depuis 2 jours pour avoir accueilli la semaine dernière une conférence, un meeting, durant lequel des propos très radicaux ont été tenus. Bonjour Damien Maistre.
Bonjour.
Faisant même pour certains l'apologie des massacres du 7 octobre.
Oui, un meeting qui se tient dans un amphithéâtre complet. Sur l'estrade, 6 intervenants liés à des groupes qui se disent communistes et révolutionnaires. Derrière eux, des drapeaux palestiniens et libanais. Les prises de parole se succèdent.
Nous étions préparés à ce soutien inconditionnel, à la résistance héroïque du peuple palestinien et à cette résistance principalement qui passe par la lutte armée.
Une revendication de la lutte armée qui va aller plus loin encore quand cette intervenante évoque les massacres commis par le Hamas.
Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Et nous n'avons eu aucun problème à revendiquer ce 7 octobre.
Des images dévoilées sur les réseaux sociaux par le média en ligne Léon qui forcément suscite des réactions, un sentiment de dégoût, écrit le ministre de l'Enseignement supérieur qui a convoqué hier le président de Paris 8 pour avoir des explications. L'université qui se défend d'ailleurs dans un communiqué d'y avoir été trompée par les organisateurs de l'événement. La direction annonce l'ouverture d'une enquête disciplinaire. La justice a également ouvert une enquête. La FSE, la Fédération syndicale étudiante à l'origine de ce meeting, ne s'est en revanche pas exprimé à ce stade. Le syndicat n'a pas répondu non plus aux sollicitations de France Inter.
Précision signée Damien Maistre. C'est avec la carte météo, l'autre carte du jour, la carte des Tours de France cyclistes 2026, dévoilée ce matin. Départ de Barcelone pour les hommes le 4 juillet, départ de Lausanne pour les femmes le 1er août. Ça, on le savait, tout le reste, c'est vous qui allez nous l'apprendre, Fanny Lechevestrier. On vous retrouve, Fanny, en direct du Palais des Congrès de Paris, où la présentation vient tout juste de se terminer. Commençons, Fanny, par le tour féminin. 9 jours de course avec un passage inédit par le Mont Ventoux.
Oui, le géant de Provence hein, et ses 1912 mètres d'altitude qui succédera au col de la Madeleine, au Tourmalet ou encore à l'Alpe d'Huez hein, que l'on avait vu lors des précédentes éditions du Tour de France Femmes. C'est la règle hein, depuis la renaissance de la course féminine. C'est une ascension mythique par édition pour s'inscrire vraiment dans l'histoire du cyclisme. À noter aussi hein, cet été qu'il y aura le retour d'un contre-la-montre individuel à Gevrey-Chambertin en Côte d'Or. Et là, on se dit bah c'est pour relancer le suspense. On avait vu cette année Pauline Ferrand-Prévot écraser tout sur son passage en montagne. Elle est moins spécialiste de l'exercice du chronomètre. Donc on verra ce que cela peut donner face à Demi Vollering. Précision, un Tour de France femme qui va s'élancer 5 jours après la course masculine. Et là, c'est un symbole important hein, de la croissance du cyclisme féminin. Il n'a plus besoin de son grand frère pour grandir.
Arrivée à Nice pour les femmes. Pour les hommes, Fanny, c'est une ascension de l'Alpe d'Huez. 2 jours de suite qui s'annonce.
Oui, et là, c'est l'illustration bien, d'une dernière semaine de course qui s'annonce complètement folle, avec 4 arrivées au sommet sur les 7 derniers jours. Et donc, vous l'avez dit, l'Alpe d'Huez proposait 2 fois 2 arrivées lors de la 19e étape avec, vous en avez l'habitude, vous avez déjà vu les images, les 21 virages traditionnels, notamment ce fameux virage des Hollandais. Et puis, le lendemain, bis repetita avec un retour dans la station des Alpes, mais cette fois-ci, via le col de la Sarenne, ça sera une totale autre ambiance. Hein. Là, c'est un col qui est quasi désertique avec une route étroite et plus de 5500 mètres de dénivelé positif proposé. Et tout cela, bah, vous l'avez compris, c'est pour essayer de maintenir le suspense le plus longtemps possible et éviter ce qu'on a vu cette année avec Tadej Pogacar qui avait quasiment, si vous me permettez l'expression, plié le tour au bout de 10 jours de course.
Et qui visera un 5e succès dans la grande boucle pour égaler Jacques Anquetil ou encore Bernard Hinault. Un mot encore, Fanny, du départ du Tour. Ce sera Barcelone en Espagne. On se souvient que le dernier Tour d'Espagne avait été très perturbé par les militants de la cause palestinienne. Est-ce que le Tour a prévu un plan B ?
Aucun plan B, c'était pas du tout le message du jour. Pas question de ne pas partir de Barcelone ou d'écouter le séjour de 3 étapes en Espagne malgré les tensions et les perturbations effectivement vécues lors de la Vuelta, un Tour d'Espagne qui n'avait pu aller à son terme avec une multiplication des manifestations pro-palestiniennes. La situation a changé, c'est ce qu'a répété ce matin Christian Prudhomme, le patron du Tour.
La situation a évidemment changé par rapport à l'époque de la Vuelta. La situation internationale qui naturellement ne dépend pas de nous s'est apaisée, et puis sur le plan du cyclisme, la demande qui a été faite par l'équipe Israël Premier Tech à la Fédération Internationale, l'Union Cycliste Internationale, est un changement de nom et la mise en retrait du propriétaire, donc on est dans une situation d'apaisement.
Oui, l'équipe Israël en Premier Tech qui a été rebaptisée Cycling Academy et qui est passée sous pavillon canadien, le mot Israël n'apparaîtra donc plus sur les maillots.
Merci Fanny Le Chevestrier de nous avoir détaillé ses parcours des Tours de France 2026 en direct du Palais des Congrès à Paris avec les moyens techniques de Florent Bujon. Belle équipe, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo très attendue comme tous les jours, vous me direz, mais particulièrement sous avis de tempête, météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, nous parlons donc de ces mères en fuite avec un enfant qui accuse leur père de violences sexuelles. Elles ont décidé de ne pas respecter le droit de garde pour protéger leur enfant, quitte à risquer la prison. La journaliste Romane Brizard raconte leurs histoires dans le livre Inceste d'État aux éditions Stock. Elle est avec nous dans un instant, 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton dans la vie d'un salon de coiffure. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribot, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marilus, on voit beaucoup de sangliers, on n'en mange pas beaucoup. Est-ce que c'est bon ?
Ben oui, enfin, nos palais n'y sont pas habitués, ça c'est vrai, mais étant donné qu'ils pullulent en forêt, ne devrait-on pas s'y intéresser un peu plus ? Je vous promets d'ailleurs une recette à la fois automnale, tendre et savoureuse.
Ce sera notre clin d'œil à la sortie du dernier Astérix aujourd'hui. Et avec vous Frédéric, un acteur, pour parler de Barbara.
Lambert Wilson, qui a eu la chance de voir Barbara sur scène à 2 reprises quand il était jeune homme, et même s'il en garde un souvenir assez mitigé, ça n'a rien enlevé à l'admiration qu'il a pour elle. Et avec lui, nous écouterons la chanson Göttingen.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce jeudi, avec la peintre Nina Childress, nous parlerons de caractère obsessionnel, de punk et de pigments fluo à l'occasion d'une multiple actualité.
La 20e heure, tous les jours à 20h10 sur France Inter.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un temps donc aujourd'hui très perturbé avec des vents tempétueux.
Oui, cette tempête Benjamin qui balaie le pays. On a toujours 18 départements en vigilance orange pour le vent, vague submersion ou pluie. Alors le vent souffle globalement partout. Hein. Les vents les plus forts se décalent doucement vers l'est et le sud-est. Ils vont persister la nuit prochaine sur la Corse. Cet après-midi, on attend des rafales encore jusqu'à 80 à 110 km à l'heure dans les terres, 100 à 130 sur le littoral. On attend encore de fortes vagues et des risques de submersion au moment des pleines mers. C'est le cas en ce moment à Fécamp. En pleine mer actuellement. 100 à 130 km à l'heure attendu aussi pour la Tramontane. Sur la Corse, jusqu'à 110 à 140, 170 même au Cap Corse. Et puis en plus du vent, on a de bonnes pluies et des averses hein, qui circulent, des averses parfois orageuses sur l'ouest. Les cumuls de pluie peuvent être importants, notamment sur l'ouest du massif central, hein, Cantal et Corrèze les plus impactés en vigilance orange. Là, sur les Alpes, la neige va s'abaisser autour de 1600 mètres. Le soleil résiste quand même du Roussillon à la Côte d'Azur. Et les températures baissent sensiblement, 10 à 15 degrés cet après midi jusqu'à 17 pour le sud-ouest, mais encore 25 en Corse. Ça va aller mieux demain avec des pluies encore, mais beaucoup moins de vent.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Romane Brizard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. Les auditeurs de France Inter vous connaissent parce que vous avez signé pour Radio France plusieurs enquêtes. Et vous travaillez depuis maintenant près de 5 ans sur le sort de ces mères d'enfants victimes. Des enfants victimes d'abus sexuels de la part de leur père, que leur mère tente de protéger, mais sans obtenir de protection de la justice. Vous avez publié plusieurs enquêtes dans la presse, vous avez réalisé un podcast sur ce sujet intitulé « Mère en cavale », et vous publiez cette semaine ce livre intitulé « Inceste d'État, quand la justice livre les enfants victimes à leurs bourreaux ». C'est aux éditions Stock, vous y donnez la parole à des mères qui, ne parvenant pas à obtenir la protection de la justice pour leurs enfants, ont choisi de partir à l'étranger. 01 45 24 7000 pour vos questions. Je le rappelle, vous passez aussi via l'application Radio France pour être avec nous. Romane Brizard, c'est donc une enquête journalistique que vous signez avec des sources, avec des chiffres, avec des documents, mais c'est aussi un long et puissant cri de colère. D'où est-ce qu'il vient, ce cri ?
Oui, c'est vrai. Cette colère, elle vient du silence qui entoure le sujet, c'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez dit, c'est un sujet que je tente de médiatiser avec d'autres journalistes depuis plusieurs années, qui a du mal à prendre. C'est un sujet qui est difficile. Il y a évidemment un déni autour de l'inceste qui est assez important, et c'est aussi un sujet très complexe parce que il touche à la technicité de la justice, comment la justice gère ces dossiers d'inceste sur mineurs. Donc voilà, on a du mal à poser les yeux sur tous ces rouages judiciaires très compliqués, mais il le faut. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, effectivement, pour qu'on sorte un petit peu de cet inconnu autour de notre système, de nos institutions. Et voilà, colère parce que pour l'instant, la France ne met pas encore les moyens dans la protection de l'enfance suffisants, alors que ce sujet dont on va parler a été dénoncé par diverses institutions, que ce soit des experts de l'ONU, que ce soit le Grevio, que ce soit le Comité contre la torture, etc.
On va venir aux causes, on va venir aux mesures aussi. partie éventuelle et à ce qui peut-être est en train de changer ou pas. D'abord, je voudrais qu'on s'arrête non pas sur les histoires, vous en racontez beaucoup dans votre livre, vous suivez beaucoup de parcours Romane Brizard, mais une histoire, c'est celle de Gladys qui est en ligne avec nous. Bonjour Gladys.
Oui, bonjour.
Merci d'être là, merci de témoigner. Il y a 7 ans, Gladys, vous avez pris la décision de quitter la France pour un pays étranger où vous vous trouvez toujours. Vous êtes avec votre fille, vous avez pris cette décision pour la protéger, dites-vous, de son père. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision radicale ?
Déjà, merci beaucoup de donner la parole sur cette chaîne publique, puisque mon histoire n'est pas une exception, puisqu'on est des centaines de mères. C'est vrai que enfant, quand ma fille m'a révélé des violences sexuelles, j'ai fait ce que toute mère ferait. Je l'ai cru et j'ai voulu qu'on la protège, mais malheureusement, au lieu de la protéger, le système s'est retourné contre nous.
C'est-à-dire ?
On a eu des signalements qui ont été ignorés, des accusations inversées, des procédures interminables en fait, jusqu'au jour où on m'a fait comprendre que le danger venait de moi, tout simplement parce que j'avais voulu défendre mon enfant. Donc face à la menace d'un placement injuste, j'ai dû prendre une décision que personne ne devrait prendre, partir pour la mettre à l'abri. J'ai même connu la prison parce que j'étais partie pour protéger ma fille.
Quand vous dites placement, c'est-à-dire que la justice avait ordonné le placement de votre fille?
Exactement, exactement.
Et dans quel lieu précise,
Dans l'ASE.
D'accord, avec l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des accusations très graves, Gladys, que vous avez formulées contre le père de votre fille. Quel document est-ce que vous aviez fourni à la justice pour la convaincre ?
Eh ben, tout simplement, au début, quand ma fille m'a fait des révélations d'inceste, j'ai enregistré, donc j'ai retransmis les enregistrements vocaux de ma fille pour qu'ils soient reconnus au niveau judiciaire. J'ai commencé par ça, mais après, il y a eu des signalements qui ont été faits par l'école, puisqu'elle a également dénoncé ces faits en classe.
Donc vous aviez la déposition écrite d'enseignants ou de responsables de l'école, c'est ça ?
Déjà, exactement.
D'accord.
Tout à fait. Puis après, y a eu des procédures qui se sont mises en place. Donc, un rapport d'expertise qui avait été sollicité par le juge d'affaires familiales a également noté que ma fille avait fait des révélations qu'elle ne pouvait pas inventer à son âge. Donc, il y a eu tous ces rapports. Mais malheureusement, l'enquête était très longue. Il n'y a pas eu d'enquête qui ont été faites dans les semaines rapidement avec interrogation de l'entourage, donc ça a été très long et ça a été balayé d'un revers de main, malheureusement.
Donc décision de placement, vous prenez la décision de fuir à l'étranger, vous allez y vivre plusieurs années, mais un jour Gladys, la police va vous retrouver, vous êtes arrêtée, mais vous aviez tout prévu pour votre fille.
Oui, en effet, parce que je tiens à préciser quand même que quand je suis partie, je n'ai pas fui la justice. C'était vraiment pour protéger ma fille, parce qu'on fuit quand la peur d'être séparée de son enfant devient plus forte que tout. Et en fait, je vivais avec cette peur constante, parce que je me suis rendu compte que les procédures étaient beaucoup plus difficiles que je ne le pensais. Donc j'avais prévu de mettre ma fille à l'abri, de préparer un sac à dos avec son doudou, avec de l'argent, avec des clés USB, avec toutes les pièces à conviction qui étaient importantes, avec ces pièces d'identité. Donc j'avais anticipé malheureusement ce qui pouvait arriver.
Et vous avez pu la retrouver quelques mois plus tard. Merci infiniment Gladys pour votre témoignage aujourd'hui sur France Inter. Romane Brizard, vous nous avez permis de rentrer en relation avec Gladys. Combien de Françaises sont dans son cas ? Vous avez étudié pour votre enquête une centaine de dossiers. Elle nous parle, elle, de plusieurs centaines.
Oui, alors, il n'y a pas de comptage national qui a été effectué, que ce soit sur ces mères qui restent en France, mais qui dénoncent le même système judiciaire que Gladys, ou que ce soit sur ces femmes partis à l'étranger. Ce sont des chiffres, moi, que je demande régulièrement au ministère, mais qu'on n'a pas, parce que tout simplement, ce comptage-là n'a pas été effectué. Les estimations les plus précises qu'on a, ce sont des collectifs qui les mènent. Je pense notamment au collectif Incesticide, qui a récolté les témoignages et recensé à peu près 600 mères à l'heure actuelle concernées par cette situation. Effectivement, des mères...
Cette situation de partir à l'étranger ou cette situation de voir son enfant qui peut toujours être en contact avec son père alors qu'il y a des éléments qui tendent à penser qu'il a été victime de la part de ce père d'agression sexuelle.
Cette deuxième situation précise. Ouais. Effectivement, ça concerne des centaines de femmes. C'est déjà la proportion qu'avait calculée la Ciivise lors de son premier avis au gouvernement en 2021 sur la question. C'était un avis qui s'appelait à propos des mères en lutte. Depuis, effectivement, on n'a pas donné de plus précise. Moi, pour mon livre, j'ai effectivement étudié 100 cas précisément. Sur ces 100 cas, j'ai une trentaine de femmes en cavale. Je ne les ai pas toutes rencontrées parce que ça demande évidemment une organisation très très complexe.
Mais à chaque fois, vous transmettez les documents, les attestations.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, que 100 cas dans cette enquête, dans ce livre, parce que c'est pas un simple livre qui se base sur des témoignages, c'est un livre qui se base sur l'analyse précise de A à Z du dossier
judiciaire.
C'est pas
juste les déclarations des mères et des enfants qui disent avoir été victimes.
Non, c'est tout leur dossier judiciaire qui s'étale sur des années et qui, ce sont des multitudes de pièces différentes.
Mais Romane Brizard, les magistrats, ils lisent les dossiers. Ils voient les signalements, ils voient les témoignages, ils envoient volontairement les enfants vers leur bourreau, si je puis dire. C'est le mot que vous mettez à la une de votre livre.
Alors, c'est incompréhensible, mais effectivement, ce sont ces magistrats qui sont décideurs dans ces dossiers. Alors, c'est pas simplement des gens qui, effectivement, juste renvoient comme ça un enfant dans les bras de celui qu'ils dénoncent. Ça s'explique par plusieurs... Il y a plusieurs explications. La première, c'est un manque de moyens. Les magistrats sont les premiers à le dire. Ils n'ont pas le temps d'étudier les dossiers. Ils les renvoient vers des experts, des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui sont censés mener des enquêtes sur ces familles, ce qui prend encore une fois des années. C'est un sablier judiciaire qui s'allonge un peu plus chaque jour. Ils n'ont pas les moyens de traiter ces dossiers. Il y en a quand même 70% l'année dernière lors d'une enquête du syndicat de la magistrature, 70% des juges des enfants français qui ont estimé ne pas être en capacité de rendre une justice comme ils le devraient. Le deuxième écueil, c'est un manque de formation qui traverse toute la chaîne judiciaire, pas uniquement les magistrats, les policiers, les membres encore une fois de l'aide sociale à l'enfance, et ces défauts de formation expliquent qu'on en arrive à ces décisions ubuesques de remettre un enfant qui dénonce au père qu'il dénonce, parce que en fait, quand on n'est pas formé à ces violences-là, on fonctionne encore sur des stéréotypes qui sont présents dans notre système judiciaire comme dans la société dans son ensemble, à savoir, est-ce que ce père est véritablement un agresseur sexuel ou est-ce que cette mère ne serait pas à l'origine des déclarations de son enfant? Est-ce que cette mère ne serait pas dans une forme de manipulation? Est-ce que les déclarations de cet enfant ne seraient pas en vérité la trace d'une aliénation maternelle? Et c'est ça qu'on voit dans tous ces dossiers, c'est la même trace dans tous ces dossiers.
Ce que vous dites, c'est que le stéréotype, c'est si cette femme vient avec son enfant dénoncer des violences sexuelles de la part du père, c'est un stratagème pour garder la garde, pour avoir la garde.
Pour avoir une garde plus large ou pour un bénéfice financier. Or, c'est très important la manière dont on formule ça. Justement, ces mères-là ne viennent pas dénoncer. Ces mères-là viennent relayer la parole de leurs enfants, tout simplement parce que c'est bien naturel. Un enfant qui révèle l'inceste, déjà il faut qu'il trouve le courage de le faire, il faut qu'il se rende compte qu'effectivement cette situation n'est pas normale, parce que la plupart du temps on maintient ses enfants dans le silence, hein, en leur disant que c'est un jeu, qu'il ne faut pas en parler, que c'est sa préférée, etc. Mais voilà, ces mères-là sont souvent les premières personnes vers qui se tournent ces enfants, qui ont besoin évidemment d'un adulte pour pouvoir... demander protection, tout simplement.
Mais on peut comprendre que la justice fasse ce travail de vérification. Ce sont des accusations qui sont extrêmement graves et les pères ont le droit de se défendre, au fond. Donc il faut que la justice fasse son travail.
Il faut que la justice fasse son travail. Ce que demandent les associations et les professionnels de ces questions-là, c'est que la justice fasse son travail différemment. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas parce qu'un enfant dénonce que le lendemain, son père doit finir derrière les barreaux. En revanche, on devrait pouvoir, comme dans d'autres pays, directement pouvoir mettre cet enfant à l'abri de celui qu'il dénonce, ne serait-ce que le temps justement qu'on puisse mener des investigations. Pourquoi ? parce que, évidemment, déjà, c'est une violence extrême pour un enfant que d'être remis dans les bras de celui qu'il dénonce. C'est des violences qui sont comparables à celles vécues, les traumatismes vécus par les victimes d'attentats terroristes. Ça, ce sont les professionnels qui le disent. Et pour ça, on pourrait mettre en place une ordonnance de protection immédiate qui n'intervienne pas lors de la mise en examen des pères dénoncés, qui intervient des mois, voire des années après le dépôt de plainte.
Mais sur la base de quoi alors ? Sur la base des déclarations de l'enfant, de plusieurs témoignages de proches, de professionnels ?
Sur la base, premièrement, d'une audition de l'enfant, mais qui soit une audition de l'enfant réalisée dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, les enfants ne sont pas tous encore auditionnés dans des salles qu'on appelle salles Mélanie, des salles adaptées pour recueillir leurs témoignages, c'est-à-dire dans un cadre un peu moins froid qu'un commissariat lambda. Les enfants ne sont pas tous auditionnés par des officiers formés à justement accueillir cette parole.
Il y a des formations qui existent.
Évidemment, il y a des formations, des protocoles qui existent, qui sont recommandés, mais qui ne sont pas généralisés en France. Ce qui est le cas, évidemment, dans d'autres pays. Et c'est là la première clé, en fait, pour mieux récolter cette parole, parce que c'est de là dont on part. C'est ce témoignage-là qui va baser toute la suite de la procédure judiciaire. Donc si on ne le fait pas dans de bonnes conditions, évidemment, on tue cette procédure avant même qu'elle puisse naître.
Ce sujet, il est aussi politique, Romane Brizard, et ce sera ma dernière question. Vous avez été entendu en février dernier à l'Assemblée par la commission d'enquête parlementaire sur la protection de l'enfance. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses commencent à bouger ?
Les voix de ces femmes et de ces enfants sont de plus en plus audible. On parle plus d'inceste. Maintenant, il faut véritablement qu'on se tourne, qu'on regarde les angles morts autour de l'inceste, notamment cette question de la procédure judiciaire. Oui, les choses avancent. Notamment, je vais juste parler de ça. Il y a une circulaire qui est passée par rapport à... les procureurs, aujourd'hui, sont censés pouvoir faire une enquête quand, justement, il y a cette déclaration, cette dénonciation de manipulation de la mère par le père. Les procureurs sont censés diligenter une enquête pour vérifier si, effectivement, il y a un risque que cette mère manipule. Aujourd'hui, c'est un texte qui est passé, mais qui n'est pas appliqué. C'est ce que nous disent les magistrats. Il faut aller plus loin.
Merci, Romane Brizard. Inceste d'État, c'est aux éditions Stock. Merci d'avoir accepté notre
Merci
invitation. Aujourd'hui, 13h45 sur Inter. Une semaine dans la vie d'un salon de coiffure. C'est notre feuilleton toute cette semaine. Nous sommes à Mâcon, en Saône-et-Loire, et depuis hier au Salon Végétal, au Peigne Fin, où l'on se rend compte que le coiffeur ou la coiffeuse sont bien plus qu'une personne qui coupe les cheveux.
Mardi, 13h30. Oui, ça va le faire.
À mardi, ouais, bon week-end à toi. Ciao. Au revoir.
Vous êtes bien installée ?
Ça va, est-ce que vous pouvez
me relever un tout petit peu ?
Alors, qui est ce chat ?
C'est le chat du salon, Biscotte.
Donc là, il se promène sur les genoux des clients, à ce que je vois ?
C'est ça, il fait tout le temps ça.
J'avoue que c'est vraiment un plus quand je viens dans ce salon de caresser Biscotte. Ça détend, c'est sympa. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que la première fois que j'ai appelé Isabelle pour prendre rendez-vous, donc je lui ai expliqué que je me colorais les cheveux, que j'avais 40 ans, etc. Elle m'a dit « il faut faire un chemin vers l'acceptation du cheveu blanc ». Et en fait, ce discours m'a bien plu. Et je trouve que ce discours est quand même assez rare de la part d'une coiffeuse qui est quand même là pour aussi faire des prestations de coloration, donc me dire « Madame, vous allez faire un long chemin vers l'acceptation de votre cheveu blanc », c'est assez fort quand même. Enfin, c'est pas me forcer à faire une coloration qui va tout masquer, mais aller vers plus de naturel. On va pas totalement masquer la nature du cheveu de la cliente, quoi.
Et ni les années qui passent.
Ni les années qui passent.
Ben oui, quand j'ai repris.
J'ai 61 ans et je m'appelle Aïcha. Donc je viens de trouver ce coiffeur que je cherche depuis longtemps. Je fais beaucoup d'allergies par rapport aux produits chimiques. Donc trouver un coiffeur végétal, pour moi, ça a été assez un parcours de combattant. Donc j'en suis très contente. Moi, ça m'apporte que du bonheur de retrouver la santé surtout. Et comme j'ai les cheveux poivre et sel, parce que j'ai plus 20 ans, puis c'est des belles couleurs. Le blanc poivre et sel, c'est génial parce que ça va s'estomper, ça va s'éclaircir. Donc c'est ça qui est bien en végétal. Et puis c'est joli quand on est mat de peau, ça ressort. J'assume mes cheveux blancs.
Oui, mais...
Je les assume, mais...
mais colorés quand même.
Colorés un peu et naturellement avec des belles plantes.
Ça, et je vous vois à l'euro.
Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une carte de fidélité, madame?
Oui, ce serait super.
On utilise les cheveux blancs pour les bonifier, en fait. On les utilise pour avoir un effet méché. Du coup, ce côté argenté, ben, on va soit le bégir, soit le doré, soit le marronné, soit s'en servir comme caramel. Donc le fait d'avoir après sur un marron quelques petits cheveux blancs qui deviennent caramel, ça fait juste quelque chose de très très beau parce que ça fait de l'ombre et de la lumière juste superbe.
Excusez-moi. Contact. Vous marquez son nom, la date. Vous allez marquer.
Ça fait 94. Les cheveux, si on accepte son cheveu blanc et puis qu'on le modifie juste légèrement, qu'on le nuance, la cliente, elle va ressortir. On va pas dire elle est colorée. On va juste dire elle a des beaux cheveux, c'est tout.
Donc il y a une notion d'acceptation de soi aussi.
Bah oui, parce que de toute façon, on est obligé d'aller dans le plus clair quand même, malgré tout, hein, quand on vieillit. Et je trouve que c'est vrai que quelqu'un d'âgé qui veut rester sur la couleur qu'elle avait à 15, 20 ans, pour moi, c'est un décalage. On n'est pas obligé de se cacher ou se camoufler derrière des couleurs. Voilà, on accepte ses cheveux blancs, mais d'une autre façon. Le cheveu blanc, à partir du moment où il est sublimé, il est merveilleux, il est beau, il donne de la lumière.
Maria Melkurdi pour ce feuilleton que vous retrouvez sur l'application Radio France, suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h49, la France à table, avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux. Marie-Luce, alors rien à voir avec la sortie du dernier album aujourd'hui des aventures d'Astérix, mais vous allez nous parler du sanglier.
Oui, Jérôme, pas un jour ne passe sans que la presse ne relate des histoires de sangliers, parfois dramatiques, comme jeudi dernier près de Istres, où un motard a perdu la vie percuté par un animal. Mais le plus souvent, ces articles illustrent notre étonnement à voir les sangliers toquer à la porte des villes. Samedi dernier, l'un d'entre eux s'est retrouvé coincé dans le canal de la Fontaine, en plein centre de Nîmes. Les histoires de sangliers pullulent parce que la population a explosé. Un seul chiffre est disponible pour mesurer leur prolifération. Dans les années 70, il y avait 2 millions de chasseurs qui ont tué 30 000. Ils sont aujourd'hui moins d'un million et ils en ont prélevé l'an dernier 870 000.
Et alors, que deviennent ces animaux ?
C'est bien là le mystère. Vous en voyez beaucoup, vous, à la carte des restaurants ou dans les boucheries ?
Non.
Non. Car la filière du gibier n'est pas vraiment organisée. Auteur de Sanglier, géographie d'un animal politique, l'écologue Raphaël Matevé, qui considère d'ailleurs que l'invasion du sanglier est en grande partie le fruit de nos propres désordres, nous dit que les chasseurs consomment ce qu'ils attrapent, fournissent les amis et après, ils rejoindraient des fosses communes une fois les meilleurs morceaux prélevés, où ils sont stockés dans des congélateurs qui débordent et quelques mois plus tard, jetés pour faire de la place à ceux qui viennent d'être chassés. Ce qui nous amène à cette réflexion. Pourquoi tant de gaspillage quand on pourrait se nourrir d'une viande réputée aussi maigre que celle du poulet ?
Mais qu'est-ce qui coince ?
Des contraintes sanitaires et, il faut bien le dire, une faible mobilisation en France pour organiser sa commercialisation. Car le sanglier est potentiellement porteur d'une bactérie, la trichine. Dans les campagnes, chacun sait qu'il faut le congeler et le cuisiner à cœur pour éviter des problèmes de santé. Mais si l'animal est vendu à un boucher ou un restaurateur, il doit au préalable passer un test vétérinaire qui coûte une quinzaine d'euros. Pour Raphaël Matevé, cette situation est totalement paradoxale. Dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, jamais on n'a été autant en contact avec le grand gibier. Et l'enjeu est aujourd'hui éthique, notamment avec des jeunes qui refusent de consommer de la viande industrielle, mais commencent à reconsidérer celle de ces bêtes sauvages dont les populations doivent être régulées.
Il y a tout de même quelques initiatives pour organiser la filière.
Oui, notamment celle de cette start-up Gibier pour tous, une plateforme qui met en contact des chasseurs et des consommateurs de proximité. Une sorte de bon coin du gibier déployé sur 9 départements français. Loïc Lehal, à l'origine de cette initiative, a également développé Artemis, son pendant pour les bouchers et les restaurateurs. Et ça marche, nous dit-il.
Justement, quel chef aujourd'hui va nous cuisiner ce sanglier ?
Damien Laforce, jeune chef du BRAC à Lille, chasseur responsable, convaincu que nous nous faisons une fausse idée de la texture et du goût du sanglier qui se rapproche de la saveur du porc noir. Il nous propose un sanglier braisé, ou d'ailleurs ça peut être du porc, débitez un gigot en cube de 3 cm que vous colorez à vif avec une huile neutre, faites ensuite revenir dans la cocotte 3 oignons émincés, 5 carottes, une demi-branche de céleri, ajoutez une bonne noix de beurre, 3 tranches de lard fumé en morceaux, une tranche de pain toasté, vous couvrez d'eau, une fois cuit, vous retirez le tout et vous effilochez la viande bien assaisonnée, faites cuire le jus, vous le faites réduire, vous arrosez le sanglier, puis vous dégustez. Pour Damien Laforce, quand il cuit en douceur, le gibier est une merveille.
Et vous retrouvez cette recette comme les autres sur l'application Radio France, ça s'appelle C'est la France. Merci Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Frédéric Pommier, vous nous proposez une semaine spéciale Barbara, 4e épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec l'acteur Lambert Wilson qui choisit Göttingen, l'un des plus grands succès de Barbara, et il l'a choisi pour sa mélodie.
C'est cette espèce de petite rengaine, une petite valse comme ça. Et puis après, j'ai vraiment étudié ce qu'elle disait et je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant parce qu'elle fait une sorte de petite déclaration d'amour. Donc on se dit, il y a dû y avoir un amour caché à Göttingen. Pas du tout, en fait. Et c'est simplement parce qu'elle allait en tournée là-bas et que... Elle jouait sur un piano à queue et il n'y avait pas de piano à queue. On lui a livré un piano droit et elle a fait un scandale. Et donc, il a fallu, pendant les quelques jours qui précédaient le concert, trouver un piano à queue à Barbara. Et tout le monde dans la ville s'est mis en quête de ce piano qu'on a failli par trouver chez une vieille dame. Et étant restée sur place, elle a été frappée par la gentillesse des gens. Et puis, du bout des lèvres, elle raconte quelque chose qui me touche énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on est les mêmes, aussi bien en France qu'en Allemagne, de chaque côté de la frontière. C'est une chanson qui parle vraiment des deux peuples. Et elle l'a écrit sur place. Alors elle l'aurait chantonné le soir du fameux concert où elle a eu enfin son piano. Et puis elle est revenue ensuite pour la chanter. C'est devenu l'hymne de l'amitié franco-allemande, de l'union entre les deux pays, de la réconciliation. Mais l'air de rien, c'est ça qui est génial.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine.
Je suis allé la voir deux soirs de suite, je lui ai même apporté des fleurs, des tulipes, je me souviens. Et ce qui me frappait surtout, c'est qu'il y avait un énorme nuage de poussière qui sortait de son pantalon. Enfin, ses pantalons étaient à pattes d'éléphant, elle ramassait toute la poussière. Et j'ai trouvé ça merveilleusement décalé, c'est-à-dire elle sublime et en même temps le côté un peu minable de la tournée, quoi. Enfin, un peu poussiéreux. Mais j'y suis retourné le lendemain parce qu'il fallait absolument que je la revoie tout de suite.
Et c'est le deuxième soir que vous êtes arrivé avec des fleurs?
C'est le deuxième soir que je suis arrivé avec les fleurs, effectivement. Et c'est la seule fois où je l'ai vue sur scène, et ça m'avait complètement bouleversé, et aussi touché justement par sa fragilité, le côté de la chanteuse qui est sur le plateau avec ses moyens du jour, en tournée, fatiguée. Et c'était intéressant de l'avoir deux soirs de suite, justement.
À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen.
C'est jamais la même chose, un spectacle.
Si, un peu, justement. C'est ça qui peut être décevant, d'ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression que... On a reçu une déclaration d'amour, et d'ailleurs, à chaque fois, c'était ma plus grande histoire d'amour, c'est vous. Alors, la première fois, on dit, ah, c'est ma vieille, c'est pour moi qu'elle le fait. Et puis après, on dit, bon, voilà, c'est comme une sorte de call girl, quoi. Elle refait le même compliment, mais c'est avec elle, à un niveau tellement sublime de rareté, d'unicité, que on est dans le divin, là.
Vous aviez quel âge, à ce moment-là?
J'avais 20 ans.
Mon cœur vert.
guerre serait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Göttingen, Barbara, c'était donc le choix de Lambert Wilson avec Frédéric Pommier. À suivre, Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire. Il me reste à m'excuser pour la qualité de ma voix aujourd'hui, à vous remercier pour votre indulgence et à vous dire que j'essaierai de faire mieux demain.